Bienvenue sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, l'émission de science tous les samedis depuis une dizaine d'années maintenant. Vous êtes fidèles de cette émission et je vous en remercie. Je m'appelle Jean-Noël et pendant une heure, on va ensemble feuilleter l'actualité scientifique de cette émission. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 mars. Cette émission est rediffusée le mardi matin à 10h, donc ne soyez pas surpris si je vous dis que nous sommes samedi et si vous nous écoutez le mardi matin. Et puis vous avez également la possibilité de pouvoir écouter les podcasts où que vous voulez, quand vous le voulez. Donc ça se trouve, vous êtes peut-être un dimanche soir, allez savoir. En tout cas, graphite.net vous permet de pouvoir récupérer l'ensemble des podcasts des émissions de Graphite. Aujourd'hui, donc 23 mars pour cette émission de Biotine, journée mondiale. Ah tiens, enfin, parce qu'il y a quand même plusieurs samedis là d'affilée, on n'avait pas une journée internationale. Eh bien là, le 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Ça commémore en fait l'entrée en vigueur en 1950 de la convention qui a institué l'organisation météorologique mondiale OMM. Et donc le 23 mars, on célèbre donc cette journée mondiale de la météorologie. Au niveau de l'éphéméride, le 23 mars 1857, c'est l'inauguration du premier ascenseur qui est installé dans un grand magasin. Il a été construit par Elisha Graves Otis. Otis, et donc du coup, voilà d'où vient le nom des ascenseurs, c'est le créateur en 1857. Naissance un 23 mars, eh bien celui d'Amalie Amy Noether, le 23 mars 1882, c'est une femme, une mathématicienne allemande, spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique, ça ne va pas être simple, et en fait, elle est décrite par Albert Einstein comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. Nous dit-il. Amalie Amy Noether a révolutionné les théories des anneaux, des corps et des algèbres. En physique, le théorème de Noether explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation et est considéré comme aussi important que la théorie de la relativité. Elle est donc née le 23 mars 1882 et elle est décédée le 14 avril 1935. Un décès le 23 mars 1946 de Gilbert Newton Lewis, physicien et chimiste américain. Il est le premier à isoler un échantillon pur d'eau lourde. L'eau classique, c'est H2O, donc c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et bien là, c'est du deutérium. Et donc, la formule de l'eau lourde, c'est D2O, pas facile à dire. Et donc, le premier à isoler cet échantillon d'eau lourde en 1933, il s'en est servi pour étudier la survie et la croissance des êtres vivants dans l'eau lourde. Il a été nommé 41 fois pour le prix Nobel de chimie. C'est quand même assez fascinant. Il ne l'a jamais obtenu. Voilà. Mais il s'appelle Gilbert Newton Lewis, né le 23 octobre 1875. Et donc décédé le 23 mars, le 23 mars 1986 à Berkeley en Californie, physicien et chimiste américain. Ça, c'est l'éphéméride. Et comme vous êtes fidèles de cette émission, vous savez que depuis janvier, on remplit tous ensemble notre petit tableau périodique des éléments à l'occasion de l'année internationale de la classification des éléments et de ce fameux tableau périodique de Mendeleïev qu'on a tous vu dans nos salles de classe. Eh bien, aujourd'hui, nous allons remplir la case 13 qui correspond à l'aluminium, le métal le plus abondant de la croûte terrestre. Il aura pourtant fallu attendre que les techniques d'électrolyse se perfectionnent pour pouvoir l'isoler dans différents endroits, notamment au niveau des boues silicatées, là où il y a du silicate, et l'énergie nécessaire pour l'extraire était telle qu'il était considéré comme un métal noble, à tel point que la légende raconte que Napoléon III exigeait des assiettes en aluminium, laissant la vaisselle en or à ses invités les moins prestigieux. C'était beaucoup plus classe à l'époque d'avoir de la vaisselle en aluminium, ça a beaucoup changé bien sûr. Un barreau d'aluminium était même fièrement exposé à Paris lors de l'exposition universelle de 1855. L'aluminium, c'était classe à l'époque. Depuis, il a prouvé son utilité dans une grande quantité d'applications. L'antenne télé, l'emballage alimentaire et bien sûr les cabines d'avion. Contrairement au fer, l'aluminium ne rouille pas. Exposé à l'air, il se recouvre d'une couche protectrice qu'on appelle l'alumine. Il est léger, il est facilement recyclable sous forme de canettes, par exemple, qu'il est le plus connu. Et recycler 670 canettes en aluminium permet de construire un cadre de vélo. Donc c'est assez intéressant. Il a été découvert en 1825 par le chimiste danois Hans Christian Ørsted et son nom originel, l'aluminium, lui a été donné par Humphrey Davy sans pour autant l'identifier clairement. En fait, ça vient du latin alumen qui signifiait alun, c'est un minerai d'où il est extrait. Et après, on a voulu un petit peu essayer d'uniformiser les noms des éléments en ajoutant un suffixe ium. Donc, on a créé l'aluminium qui est principalement extrait de la bauxite sous forme d'alumine et qui, par électrolyse à l'état fondu, donne le fameux métal. Et sa faible masse volumique, alliée à des propriétés mécaniques vraiment intéressantes sous forme d'alliage, en fait un matériau utilisé à grande échelle dans les transports, les emballages, la construction. Voilà la vie de l'aluminium, symbole chimique grand A, petit L. On ne s'est pas foulé pour le symbole chimique. Et numéro atomique, c'est le 13. On a rempli la 13e case de ce tableau périodique aujourd'hui et on en est tous très fiers. Aujourd'hui, on va parler dans cette émission de pas mal d'articles. On va parler des robots, on va parler des plantes OGM, on va parler également de la recharge sans fil à distance qui arrive enfin pour nos téléphones portables. On va parler du diabète, on va parler des abeilles et on va également parler dans cette émission de cette alerte concernant tous les GPS qui pourraient cesser de fonctionner dans les prochains jours. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe sur Terre ? Ça devient effrayant. C'est le menu de cette émission Biotine et un peu de musique également.
We've already forget us, and maybe you should know it. If Harry's baby was an oral lobotomy, you got to do it. Think you're detecting on earth. Tell me the world about the things you got to see through. Or say, don't get you remember what you used to do. You got to do it. Think you're detecting on earth. Before we bite you up to Ramos or the crowd, you got to do it, think you're to take it on earth. Tell me the word about the things you want to need. I'll tell the kid, remember what you used to see. You got to do it, think you're to take it on earth.
Out of the cage, c'était the Dizzy Brains. tiré de l'album Out of the Cage, justement, sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, et je vous en remercie, sur le 94.9 ou sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité de nous écouter en direct ou en différé grâce au podcast. Elle parle de la façon suivante, Amanda Cavanagh, elle est biologiste à l'Université de l'Illinois. Elle dit « Nous avons réussi à hacker la photosynthèse ». Tiens donc, cette post-doctorante et ses collègues ont annoncé il y a quelques semaines dans la revue Science avoir réussi une percée majeure dans la productivité des plantes permettant de doper leur rendement de 40%. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Au cœur de la photosynthèse figure une enzyme qui est appelée Rubisco, qui permet aux cellules de produire des glucides, donc du sucre, à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, et tout ça en présence de lumière. Mais cette enzyme, elle a évolué dans des organismes vivants il y a des milliards d'années lorsque les niveaux d'oxygène de l'atmosphère étaient plus bas. Et aujourd'hui, elle s'avère d'une grande inefficacité parce qu'elle confond, cette idiote, les molécules d'oxygène avec les molécules de dioxyde de carbone, et cela dans 20% des cas, ce qui est quand même assez important. Et c'est une erreur qui a abouti à la formation de glycolate et d'ammoniac, qui sont deux composés toxiques qui doivent être dégradés rapidement avant qu'elles ne causent trop de dégâts. Et pour cela, la plante, elle n'est pas idiote, elle met en œuvre un processus concurrent de la photosynthèse, qu'on va appeler photorespiration, qui va lui permettre de se débarrasser de ses poisons. Le problème, c'est que ça coûte à la plante une énergie et des ressources précieuses qu'elle aurait pu investir dans la photosynthèse pour produire plus de croissance et de rendement. C'est ce qu'explique Paul Souff, le chef du projet, qui a été notamment interviewé dans le Financial Times, qui est également une revue aussi scientifique apparemment. Et toutes les grandes céréales qui ont ainsi recours à la photorespiration. Or, non seulement elle représente les trois quarts des cultures qui fournissent les calories nécessaires à l'alimentation mondiale, mais cette fameuse enzyme, la Rubisco, commet encore plus d'erreurs quand il fait chaud, ce qui aboutit à plus de photorespiration. Donc, le réchauffement climatique risque de faire baisser les rendements dans les années à venir. Éliminer donc justement la photorespiration apparaît alors comme la solution miracle. Selon une précédente étude en 2016, eh bien cela permettrait d'améliorer les rendements de soja de 36%, le blé de 20%, mais également de produire chaque année 148 000 milliards de calories supplémentaires de ces cultures pour la même surface aux États-Unis. Alors, compte tenu de l'augmentation de la population, de l'urbanisation, des modifications des choix alimentaires, il faudra augmenter la production de 50% à l'horizon 2050. C'est ce qu'estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Or, la hausse de productivité des cultures n'est pas suffisante à l'état actuel pour atteindre cette cible. Cela signifie qu'il faudra accroître les surfaces cultivées, quitte à amputer les forêts, bien sûr, qui, elles, pourtant, contribuent à limiter le réchauffement climatique. Bref, c'est un problème, un cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Cela fait de nombreuses années que les chercheurs du monde entier essayent d'améliorer le processus de photosynthèse. Il y a 2 ans, les chercheurs avaient déjà réussi à faire pousser du tamba 20% plus grand en permettant aux plantes d'utiliser plus efficacement la lumière. D'autres études ont été menées sur l'utilisation de gènes d'algues vertes ou d'autres bactéries pour essayer de concentrer le dioxyde de carbone autour de cette fameuse enzyme Rubisco et de favoriser ainsi son activité carboxylase, donc l'idée de pouvoir détruire le carbone. Certains efforts ont ainsi porté sur l'amélioration de la dégradation du glycolate, qui est l'un de ses composés poisons. Finalement, Paul Souff et ses collègues ont exploré une autre voie, une troisième voie, en ajoutant un gène d'algues et également une autre protéine qui provient d'une citrouille, quand même assez fascinant, pour produire une enzyme qui va bloquer le transport de réactifs à l'intérieur de la cellule. Et l'idée, c'est d'emprisonner le glycolate à l'intérieur des cellules des plantes. Et libérer le carbone perdu peut être alors utilisé par la plante pour la photosynthèse. Et c'est ça qu'on cherche à faire, bien sûr. Les essais sur des plants de tabac cultivés en champ ont montré des plantes poussant plus rapidement et 40% plus grandes. C'est une avancée extrêmement importante. Le premier progrès majeur dans la photosynthèse, reconnaît Maureen Hanson, biologiste à l'université de Cornell, qui a également conduit des recherches sur le sujet. Cette réussite couronne 5 ans d'efforts d'un programme mis en place en partenariat avec plusieurs universités américaines, européennes et chinoises pour améliorer la photosynthèse. Il y a également la fondation de Bill Gates qui a participé à hauteur de 70 millions de dollars, nous dit-on. Les recherches ont été menées sur le tabac, une plante communément utilisée comme modèle pour les expériences scientifiques, car son génome est parfaitement connu. De toute évidence, cela n'a pas grand intérêt, bien sûr, en termes commerciaux, sauf si on veut fumer plus, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pourquoi les chercheurs comptent à présent étendre leurs essais à la pomme de terre, relativement proche, à la dolique, qui est une espèce de haricot grimpant, puis également faire des recherches sur la tomate, le soja, le riz, et également d'autres céréales. Il reste néanmoins un long chemin avant de voir des champs de blé pousser dans nos campagnes, de super blé, pourrait-on dire, dans nos campagnes. Il faudra au moins 10 à 15 ans avant d'obtenir les premières autorisations de mise sur le marché, nous dit-on. Plusieurs question reste également en suspens. Obtiendra-t-on réellement plus de graines de soja et de tomates, ou bien la plante va-t-elle se contenter de produire des feuilles et des tiges en masse? Oui, parce que si elle produit plus, ce n'est pas nécessairement des fruits qu'elle va produire. Peut-être elle va pousser mais en ayant des plus grandes feuilles et des plus grandes tiges. D'autre part, le processus de photorespiration n'est pas totalement inutile pour les plantes parce qu'il lui permet de se protéger en cas de rayonnement solaire intensif également. Donc il ne faudrait pas totalement détruire ce processus. Et la photorespiration jouerait également un rôle important dans la synthèse des acides aminés, ce qui produit ensuite les protéines. De plus, la photosynthèse n'est et de loin pas le seul processus impliqué dans la croissance des plantes. Le fait que l'eau soit disponible, qu'il y ait également de l'azote, qu'il y ait également des nutriments, tout ça joue un rôle majeur. Enfin, on peut également s'inquiéter des risques de dissémination génétique ou de disparition d'espèces. De telles plantes spéciales, de super plantes, auraient vite fait de prendre l'avantage sur les variétés naturelles. Même à supposer que l'on réussisse à transposer cette modification génétique à toutes les plantes, on peut s'interroger sur l'attitude des consommateurs à leur égard, tant la méfiance face aux OGM est encore vraiment importante en Europe et ailleurs dans le monde, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on aurait produit des plantes OGM qui seraient capables de pouvoir produire plus. Produire plus de quoi? Et bien voilà, c'est un petit peu ce qu'on cherche à savoir. On suivra ça bien évidemment dans les prochaines émissions de Biotine, bien sûr. Autre titre et aucun rapport, aucun lien, je ne cherche même pas à faire des transitions, ça concerne les robots avec cette question qui serait de savoir s'il faut apprendre la politesse aux robots. À l'heure où on nous parle un petit peu de robotique collaborative et que l'on nous promet un avenir où les robots feront partie de notre quotidien personnel et professionnel, eh bien certains experts estiment nécessaire de leur inculquer les conventions sociales. C'est la démarche entreprise par une équipe de chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis qui a développé un logiciel grâce auquel un robot apprend à reconnaître et à respecter la propriété d'autrui. Le programme combine deux algorithmes d'apprentissage automatique, l'un utilisant des règles explicites, l'autre se servant d'un système pour essayer de déduire la propriété en se basant uniquement sur les qualités de l'objet observé. L'idée, c'est qu'on veut leur faire apprendre le sens de la propriété à ces robots. Dans leur article, les chercheurs expliquent qu'associer ces deux approches leur a permis de reproduire la manière dont les humains apprennent à connaître et à respecter la propriété en utilisant à la fois des règles explicites et un apprentissage empirique. Comprendre la propriété des objets, les permissions et les coutumes est l'un de ces sujets qui n'a pas vraiment reçu beaucoup d'attention, mais qui sera essentiel à la façon dont les machines fonctionnent dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos bureaux, dans nos entreprises. C'est ce qu'explique l'un des chercheurs à l'origine de ce projet. La plateforme logicielle d'apprentissage a été testée sur un robot qui accomplit des tâches en respectant donc des règles de propriété, mais ses concepteurs assure que cette plateforme pourrait fonctionner avec d'autres modèles de robots. Mais voilà, on va apprendre aux robots à respecter la propriété d'autrui. Et mon Dieu, c'est pas plus... Enfin, c'est quand même pas mal, finalement. On va essayer d'avoir des robots un petit peu plus... un petit peu plus poli. Ah, oh, ça pourrait être sympa. Allez savoir. Allez, on écoute un peu de musique et on continue à feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission.
D'appréhension et d'excitation, c'est très bizarre mais c'est normal. Quelque chose se prépare, la mutation moi s'amorce. J'attends la suite des événements avec impatience. J'ai connu des ratés mais pas cette fois non. Là c'est la bonne, il est l'heure et je frémis. La voix s'est dégagée, j'ai pris le large. Je suis hors de mon corps, ça y est. Je suis enfin ailleurs, quelque part entre le moi et les étoiles. Au plus profond de l'intérieur, je prends de la hauteur, il est tard. Je suis au milieu de nulle part mais j'annonce que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare, personne ne peut le nier. Je lance ce troisième album dans un contexte encore plus merdique que le précédent. Non, vraiment rien n'a changé, monsieur le président, et c'était prévisible. C'était même clair, limpide et lisible. Deux, trois promesses foireuses, histoire d'être éligible. Et comme d'habitude, après on passe aux choses sérieuses, on passe à la casse. Et c'est les mêmes qui passent à la caisse. Avec en fond de trame une crise montée de toutes pièces. Et que c'est pas fini, c'est loin d'être fini, ça ne fait que commencer. Y en a encore plein dans les tiroirs. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route.
Mais qu'est-ce que je raconte? Je dis ça, je dis rien, moi je suis qu'un rappeur. Et là je ne rappe même plus, te rends compte? Allez, je me retourne à mes pénates peinards, va. Je ferme ma gueule, je vais retrouver ma cave. Mon shit, mes beats, mon écran plasma. Crédit, mes films porno et mon McDo. Bien raccord, bien conforme à ma CSP. À ma niche, à ma place, comme tu m'aimes. Ouais, continue de me prendre pour un teubé. Jusqu'à la race, toi le grand décideur. Toi la bonne conscience anthropophage. Toi qui lève ton verre à la santé de l'année prochaine. Dis-toi bien que quelque chose se prépare.
There's a war going on outside, no man is safe from. You can run, but you can't hide forever.
Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route. Quelque chose se prépare. Je le sens, je le sais. Le vent se lève, j'attends, je me tais. Quelque chose se prépare. Ça se charge, ça se gonfle, c'est dans l'air. Je ne peux rien y faire, j'écoute, c'est en route. Quelque chose se prépare.
Quelque chose se prépare, c'était la nausée sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous parlons de l'actualité scientifique. On va parler de deux sujets un côté médecine et un côté nouvelle technologie. Côté médecine, lorsqu'il est question de prendre un médicament, la voie orale apparaît souvent comme le moyen le plus simple, bien sûr, à prendre un comprimé tout simplement, mais il y a certaines molécules qui ne survivent pas au passage dans l'estomac et le tube digestif. C'est le cas notamment de l'insuline, et ce qui fait qu'on injecte l'insuline et aussi de nombreux autres médicaments directement dans la circulation sanguine. Et pour les diabétiques qui se font des injections tous les jours, un médicament oral faciliterait leur traitement et améliorerait leur quotidien. Et bien, dans une étude parue dans la revue Science, des chercheurs du MIT ont créé une capsule qui pourrait changer la vie de ces patients. Pour éviter que l'insuline soit libérée dans l'estomac où elle risque d'être dégradée, notamment par les acides gastriques, eh bien, les auteurs ont imaginé une capsule, avec une aiguille. La pointe de l'aiguille est formée d'insuline lyophilisée et comprimée grâce à un processus déjà utilisé pour d'autres médicaments. Et un communiqué du MIT explique le fonctionnement de cette pilule révolutionnaire, donc d'après eux. Dans la capsule, l'aiguille est fixée à un ressort comprimé maintenu en place par un disque en sucre. Lorsque la capsule est avalée, l'eau dans l'estomac dissout le disque de sucre, libère le ressort, injecte l'aiguille dans la paroi de l'estomac. Et comme la paroi de l'estomac n'a pas de récepteur sensoriel pour la douleur, on peut penser que les patients ne devraient pas ressentir l'injection. Mais comment faire pour que la capsule se positionne correctement avec l'aiguille prête à injecter l'insuline dans la paroi de l'estomac? Et bien pour cela, les chercheurs se sont inspirés de la forme d'un animal, à savoir la tortue léopard. Cette tortue africaine possède une carapace qui forme une sorte de dôme, ce qui lui permet de se remettre à l'endroit si elle roule. Et à l'image de la tortue, les scientifiques ont créé une capsule dont la forme lui permet de se réorienter dans la bonne position. Elle s'accroche alors à la paroi de l'estomac, avec l'aiguille placée du bon côté. Ainsi, même si la personne se déplace ou si l'estomac se met à bouger, eh bien la capsule se retrouve dans le bon sens. Et il y a une vidéo que vous pouvez voir notamment sur internet qui vous explique comment fonctionne un petit peu cette pilule d'insuline. Ensuite, une fois la capsule posée sur la paroi de l'estomac, l'aiguille injecte donc l'insuline, et d'après cette étude, l'insuline est délivrée en une heure dans le sang. Les chercheurs ont testé leur capsule sur des cochons et ont montré qu'elle peut injecter une dose de 5 mg d'insuline, soit la quantité souvent nécessaire à un patient souffrant de diabète de type 2. Le reste de la capsule, formée de polymères biodégradables et de composants en acier inoxydable, continue son trajet dans le tube digestif. D'après les auteurs, il n'y aurait pas d'effet secondaire. Cette capsule innovante pourrait permettre d'administrer d'autres médicaments que de l'insuline, comme par exemple des traitements immunosuppresseurs. Et l'un des auteurs, Giovanni Traverso, explique dans un communiqué donc du MIT: notre motivation est de faciliter la prise de médicaments par les patients, en particulier ceux nécessitant une injection. D'où l'idée donc de créer cette pilule d'insuline pour remplacer les injections. C'est testé sur des cochons, et maintenant on attend d'avoir le feu vert pour essayer de faire des tests sur des humains pour essayer d'avoir cette injection d'insuline. C'est assez révolutionnaire, c'est assez étonnant bien sûr, à faire, à suivre, mais voilà, on a de plus en plus dans cette émission des sujets assez bluffant et que nous suivons bien évidemment. Autre sujet, je vous parlais un petit peu des nouvelles technologies. En clair, on va parler de nos téléphones portables parce qu'on est toujours en train de chercher la possibilité de pouvoir recharger nos téléphones, et on cherche partout un câble, un chargeur, une prise. Ça devient pénible. Eh bien, on a essayé de résoudre le problème avec la recharge sans fil et à distance. C'est un fabricant, Energos, qui a présenté différents produits, notamment différents partenaires. Entre autres, il y a des prototypes d'audioprothèses, de lunettes connectées, il y a des balises connectées à attacher à ses affaires pour les retrouver plus facilement. Donc tout ça a été présenté. Il y a même Deutsche Telekom qui fait partie un petit peu de ses partenaires, avec une box qui contient un émetteur à distance moyenne capable de charger les appareils situés jusqu'à 30 cm, c'est quand même pas mal. Et donc les technologies se divisent en trois catégories. La première, c'est la charge à proximité immédiate, c'est-à-dire à moins de 10 cm. Et cette méthode peut délivrer jusqu'à 15 watts de puissance électrique. Vient ensuite la charge à distance moyenne jusqu'à 1 mètre. Ça, c'est intéressant. L'entreprise imagine, par exemple, intégrer une base à l'intérieur d'une enceinte posée sur le bureau qui pourrait alimenter les appareils autour. Et puis, la dernière catégorie, c'est la charge longue distance allant au-delà d'un mètre jusqu'à 4,50 m, c'est quand même pas mal. Le système utilise une base sur laquelle les objets à charger sont posés. Ça ressemble à première vue un petit peu au principe d'induction magnétique, mais les trois différents émetteurs qui sont proposés fonctionnent par ondes radio, ce qui modifie grandement les applications possibles. Avec donc ce système sans fil, les bobines d'induction de l'émetteur et du récepteur doivent être alignées. Le récepteur utilise une bobine qui occupe une grande partie de la surface interne du smartphone. Dans le cas de la recharge sans fil par onde, eh bien les contraintes elles sont totalement différentes et c'est ça qui est intéressant. Le récepteur est constitué d'une puce qui peut s'intégrer dans de nombreux petits équipements. La forme, le positionnement des appareils ne modifie pas la charge. Ouf, on est sauvé. L'information la plus intéressante provient du PDG d'Energos, qui s'appelle Steve Reason, puisqu'il a déclaré que cette technologie intégrera un smartphone. La firme aurait un contrat avec un constructeur de smartphone pour intégrer justement cette technologie dans un prochain modèle. On n'en sait pas plus. Évidemment, il y a de la confidentialité dans l'air, mais on l'en saurait bientôt. Il a cependant évoqué le développement d'un modèle jusqu'à 4 mètres qui pourrait arriver l'année prochaine en 2020. C'est un intéressant, une station de recharge donc sans fil à distance pour nos téléphones portables, mais également pour tous les gadgets électroniques qui nous entourent. Ça va être intéressant, affaire à suivre bien sûr, mais ça va être assez développé et on pourra suivre cela dans les prochains mois. On aura peut-être bientôt notre futur cadeau de Noël à la fin de l'année, c'est peut-être ça qu'on va s'offrir, ces fameuses recharges sans fil et à distance. Ça peut être intéressant, c'est vrai que finalement ça pourrait nous convenir. Allez, on va écouter Meilleur Espoir Masculin sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve là? Toi, 6 pieds sous la terre et moi qui l'espère parfois, dis-moi combien sont tombés en prison ou à Sainte-Anne. On finit dans la com, on finit dans la cam. Au sud de la banlieue nord, au sud de la banlieue nord. On était bien élevé, mais à force de faire semblant, à force de jouer les fous, toi tu l'étais devenu vraiment. T'étais supposé finir un peu comme tes vieux héros de la classe moyenne dans un bureau poussiéreux. Tu t'y voyais déjà coincé, cravate, chemise, chien obèse, gosse qui te déteste et femme dépressive. À rêver de jeunette, à rêver d'être libre, te branlant sur le net jusqu'à ce que mort s'ensuive. Au sud de la banlieue nord, au sud de la banlieue nord. La tête à l'envers, tirer sur des gros bédos, décapsuler des bières, regarder des pornos, avoir la vie entière, jouer aux jeux vidéo, frauder dans le métro, éclater des rétros. Il est si loin ce temps où je me croyais spécial, où je croyais encore qu'il y avait le bien et le mal. Je repense à mes amis parfois quand j'ai un peu trop bu, j'ai le mal d'un pays qui n'existe plus. Au sud de la banlieue nord, au sud de la banlieue nord. au sud de la banlieue nord. Oh, au sud de la banlieue nord. Y a-t-il une vie avant la mort? Une vie avant la mort, ah, avant la mort. Au sud de la banlieue nord, y a-t-il une vie avant la mort? Une vie avant la mort, une vie avant la mort. Au sud de la banlieue nord.
Au sud de la banlieue nord, c'était Meilleur Espoir Masculin sur l'antenne de Graphite. Il y a une faiblesse du système de positionnement américain GPS qui risque d'empêcher un bon nombre d'appareils GPS de fonctionner correctement après le 6 avril prochain. C'est ce qu'a découvert The Register, et la cause du dysfonctionnement, c'est un compteur système indiquant la semaine qui arrive à sa limite et qui sera automatiquement réinitialisé. En fait, c'est un peu similaire au problème du bug de l'an 2000. Afin de calculer correctement la position, les systèmes de navigation doivent connaître la date. Et lors des échanges, le système GPS communique la semaine en cours avec une variable de 10 bits. Alors cela signifie que cette variable peut prendre 2 puissance 10 valeurs, autrement dit compter de 0 à 1023. Et après 1023 semaines, ce qui correspond à peu près à 20 ans, le compteur repasse à 0 et continue de compter. Le compteur, il a commencé en 1980 pour la première fois, puis il a été remis à 0 en 1999. Et la prochaine réinitialisation, vous l'avez compris, c'est le 6 avril prochain 2019. Le seul moyen pour les appareils plus anciens de retrouver la bonne date sera d'effectuer une mise à jour système. Cela concerne principalement les appareils fabriqués avant 2010. Les plus récents ne devraient pas poser de problème si les fabricants ont bien suivi les normes, bien sûr. Cependant, certains d'entre eux ont contourné la difficulté en changeant la date de début, et donc certains appareils pourraient passer cette date sans encombre, mais causer le même souci dans quelques années. Le problème ne devrait plus se rencontrer à l'avenir pour les nouveaux appareils, parce qu'on va pouvoir maintenant intégrer de nouveaux formats de messages qui seraient valables pendant plus de 150 ans. Donc avoir des GPS qui durent 150 ans, à mon avis, on n'en aura pas besoin. Mais en tout cas, voilà, il y a un bug de l'an 2000 qui aura lieu le 6 avril 2019 en ce qui concerne les GPS. Donc voilà, mettez à jour vos GPS, ça devrait fonctionner, ça devrait le faire apparemment. On suivra ça, bien sûr. Ça va un petit peu affolé dans les chaumières, ça peut être intéressant. Autre chose au niveau des animaux. Alors là, aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de tout, de toutes les thématiques. Et là, on va parler des animaux. En 2018, il y avait des chercheurs français et australiens qui avaient montré que les abeilles comprenaient le concept de zéro, du chiffre zéro. Et la même équipe, issue notamment du Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse, Récidive, hein, cette équipe, avec une nouvelle étude parue il y a quelques jours dans la revue Science Advances, qui démontre que l'insecte, justement, pourrait aussi additionner et soustraire. Les scientifiques ont pour cela utilisé deux couleurs associées chacune à une opération. Le bleu pour l'addition, le jaune pour la soustraction. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le protocole, il est le suivant. On a placé l'abeille dans un tunnel en forme de Y avec à l'entrée des échantillons de carrés de couleurs, par exemple 3 carrés jaunes sur fond gris. Si les carrés sont bleus, elle devra ajouter un carré. S'ils sont jaunes, en retrancher un. Et à chaque fois, l'insecte est récompensé par de l'eau sucrée s'il emprunte le bon chemin et est puni par une solution d'eau amère s'il se trompe. Et après avoir entraîné les abeilles sur une centaine d'essais, on s'est rendu compte que le taux de bonne réponse est passé de 50%, ce qui est donc un petit peu aléatoire, c'est une chance sur deux, à 80%. Les chercheurs ont ensuite supprimé la récompense et vérifié que le taux de réussite restait à 70% afin d'éliminer tous les biais un petit peu expérimentaux ou les mauvais résultats. Il y a diverses mauvaises réponses ou des carrés de différentes tailles qui ont été testés. Bref, est-ce que les abeilles savent calculer à l'état sauvage ou est-ce qu'elles sont juste douées d'apprentissage? Eh bien, selon l'une des auteurs de l'étude, elle s'appelle Aurore Avargues-Weber, la durée d'entraînement est insuffisante pour créer suffisamment de nouvelles connexions cérébrales et donc, selon elle, la manipulation de quantité serait innée et permettrait aux abeilles de créer une carte cognitive de leur environnement, par exemple de savoir que leur ruche est située après la cinquième maison, là où se dressent deux arbres, par exemple. Donc, elles sont capables de faire des additions, elles sont capables de faire des soustractions, ces abeilles. Elles sont quand même assez malines et elles ont bien de la chance. Elles sont peut-être meilleures en maths que nous, hein, les savoir. Troisième petit article, avant de réécouter un peu de musique, on va parler des boîtes noires. Retrouver les boîtes noires, on sait que c'est toujours le premier réflexe des bureaux d'enquête de l'aviation à l'issue d'un crash d'avion. Et elles ont été introduites dans les avions dans les années 50. Les boîtes noires sont en l'occurrence plutôt de couleur rouge ou orange pour pouvoir mieux les repérer. Et elles sont toujours au nombre de deux. L'une, c'est réservée aux enregistrements audio dans la cabine de pilotage, ainsi que les éventuels sons d'alarme ou d'autres bruits également. Et la deuxième, elle mémorise l'ensemble des paramètres du vol. Le souci, c'est que lorsque l'une des boîtes vient à manquer, eh bien, l'analyse des causes du crash se complique, ça devient même parfois impossible, et parfois ces boîtes noires ne sont jamais retrouvées. D'autres fois, elles émergent longtemps après le crash. C'est le cas, par exemple, du vol d'Air France, le fameux Rio-Paris, qui s'était abîmé en mer en 2009. Il a fallu deux ans pour pouvoir les récupérer. Le deuil devient bien sûr très difficile pour les victimes dans ce cas-là. Pour éviter ça, la société Honeywell, spécialisée dans la conception de boîtes noires, elle a travaillé avec un avionneur. Elle compte mettre au point des boîtes noires qui seraient capables de retransmettre en temps réel les données et les communications du vol. Pour les communications, ils souhaitent exploiter les moyens des satellites qui vont évoluer en orbite basse. Et en cas de pépin en plein vol, le constructeur de l'appareil serait immédiatement prévenu d'un dysfonctionnement et pourrait même transmettre des données à la volée à l'appareil en cas d'urgence. Ces boîtes sont conformes aux nouvelles normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, des normes qui seront imposées à partir de 2021. Elles iront au-delà de la durée d'enregistrement de 25 heures qui est préconisée par ce nouveau standard. Si ces boîtes noires communiqueront en temps réel, il faut savoir que certaines données de vol des avions de ligne sont déjà transmises en temps réel par la radio, bien sûr, ou via les satellites par le système de l'avion qui le permet. Ce procédé permet d'anticiper en fait une opération de maintenance avant même l'arrivée de l'avion. Mais voilà, des boîtes noires qui pourront communiquer en temps réel, c'est ce qui va pouvoir être développé dans un avenir très très proche. Voilà, c'était trois petites informations comme ça. On écoute encore un titre et puis on continue de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Je t'aime.
Une étoile en parade, ça fait partie de l'album Je vous embrasse de Petit Prince sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on va continuer avec la Méditerranée et le tsunami. Même si le mot tsunami évoque plutôt pour nous l'Asie, d'ailleurs d'un point de vue étymologique, c'est normal parce que le terme vient de tsu, c'est-à-dire port, et nami vague, soit vague de port en japonais. Et le 26 décembre 2004, on s'en souvient, un séisme de magnitude 9,2 causait un terrible tsunami dont les vagues destructrices faisaient plus de 2200 morts en frappant les côtes de l'océan Indien. Depuis le début du XXe siècle, il y a une centaine de tsunamis qui ont été observés en Méditerranée et dans les mers qui lui sont reliées, la mer Noire, et cela représente 10% du total des tsunamis sur Terre pendant cette période. Ces tsunamis sont produits généralement à l'occasion de séismes et nous n'avons pas souvenir qu'ils aient causé des dégâts aussi importants que ceux qui étaient constatés en Asie, mais ce n'est nullement une raison pour ne pas disposer d'un système de surveillance et d'alerte. C'est d'autant plus nécessaire que des tsunamis peuvent aussi se produire à l'occasion d'effondrements d'édifices volcaniques actifs. Et il en est au moins trois qui le sont depuis l'Antiquité en Méditerranée occidentale. Le Vésuve, mais surtout l'Etna et le Stromboli. Récemment, l'effondrement d'une partie de l'Anak Krakatoa a tristement rappelé que ces effondrements générant des tsunamis sont bel et bien dangereux. Or, justement, il y a une équipe de volcanologues de l'Institut national de géophysique et de volcanologie et du département des sciences de la Terre, l'Université de Pise, entre autres, qui ont travaillé ensemble et ils ont rédigé, publié un article dans la revue Nature conduisant à réévaluer à la hausse le risque de tsunami au moins sur les bords de la mer Tyrrhénienne. Les chercheurs, pour l'essentiel italiens, ont effectué des coupes géologiques. Des coupes géologiques dans des couches entre à peu près 200 mètres du rivage de Stromboli, ce fameux volcan sans cesse en activité. Et il leur a suffi de creuser trois tranchées profondes de plus d'un mètre pour trouver des strates manifestement constituées de dépôts de sable noir, un sable qui ne se trouve normalement que sur les plages de l'île. Alors assurément, ce sable et les roches en forme de galets qu'il contenait ne pouvaient pas avoir été apportés que par trois tsunami, mais alors quand ? Alors heureusement, on a des fragments de charbon de bois qui ont permis de faire des datations carbone 14 et il est apparu que ces trois tsunamis se sont produits entre le 14e et le 16e siècle. Ces dates peuvent être comparées à ce que nous disent l'archéologie et l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se rend compte que le Stromboli était à l'origine de tsunamis vraiment dévastateurs à cette époque-là. Nous sommes donc entre le 14e et le 16e siècle. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il n'existe aucune trace écrite de séisme à cette époque en Sicile ou en Italie. Mais il existe des traces d'une éruption volcanique importante vers 1350. Et les volcanologues pensent donc qu'il s'est produit un événement analogue à celui de l'Anak Krakatoa et qu'une partie du volcan Stromboli s'est effondrée, générant justement un tsunami observé d'une façon assez similaire. Et ils pensent aussi qu'il y a un autre événement qui s'est produit en 1456. La découverte confirme ce qui était pressenti, à savoir le danger des tsunamis générés par le Stromboli dans la mer tyrrhénienne méridionale. Quant à sa quantification précise, ça nécessite de nouvelles études. Mais voilà, il y a aussi la nécessité de pouvoir sensibiliser la population sur les risques de tsunamis, même en mer Méditerranée. Ce n'est pas qu'en Asie. Allez, on écoute un dernier titre et puis on partira pour la fin de cette émission. Dans l'espace, à tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple and plum and an apricot too. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you a Christmas tree. Come on to my house, I'm gonna give you a pomegranate. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear, and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you Easter eggs. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Everything, everything, everything. Come on.
Come on, I'm a house. C'était Rosemary Stanley sur l'antenne de Graphite. C'est doux, c'est agréable. Ça fait du bien. Dernier article avant de nous quitter pour cette émission. On va parler du satellite Remove Debris, conçu pour tester en orbite plusieurs scénarios et technologies capables de désorbiter des débris spatiaux. On sait que c'est une vraie plaie, la pollution spatiale. Eh bien, ce satellite a réalisé avec succès sa troisième démonstration de capture avec un harpon. Un harpon a été lancé à une vitesse d'environ 20 mètres par seconde vers un panneau composite, et pour démontrer sa capacité à capturer un débris, l'harpon a pénétré ce panneau qui était situé à 1,50 m du satellite à l'extrémité d'une perche. Et il y a une vidéo qui, vous pouvez voir également sur internet, vous montre cette expérience qui est quand même assez bluffante. L'harponnage est une technique adaptée à la capture et à la désorbitation de débris de très grande taille, comme des réservoirs, des étages supérieurs de lanceurs. L'idée est d'utiliser un harpon pour débarrasser l'orbite d'un satellite qui serait susceptible d'être percuté par un de ces objets qui ne sont plus sous contrôle et dont on estime leur nombre à plusieurs plusieurs milliers. La mission de Remove Debris n'est pas encore terminée. Le satellite doit réaliser un aérofreinage à l'aide d'une voile de traînée qui assurera la désorbitation en 8 semaines environ. Sans cette voile, plus de 2 ans et demi auraient été nécessaires pour qu'il se désorbite. Et de cette façon, Remove Debris ne deviendra pas un énième débris. Il sera donc contrôlé, contrôlable. Et c'est ça qui est intéressant. Cette quatrième et dernière expérience consistera à déployer une voile de traînée le moment voulu. Le rapport entre la surface et la masse du satellite sera augmenté de sorte que l'altitude de l'orbite sera naturellement réduite par la traînée atmosphérique. Cette réduction d'orbite va s'accompagner également d'une réduction de la vitesse du satellite qui finira par retomber dans l'atmosphère terrestre où il va se consumer. Et oui, c'est maîtrisé tout cela, ça ne sera pas donc un débris supplémentaire. Une technique qui est actuellement mise en œuvre avec également le satellite microscope du CNES, le Centre National d'Études Spatiales français, qui a testé le principe d'équivalence énoncé par la théorie de la relativité générale. Mon Dieu, c'est quand même assez sérieux. Et voilà, on pourra donc suivre cela. Regardez un petit peu les vidéos sur Internet pour ce harpon qui est capable de capturer un débris spatial. C'est assez bluffant, c'est assez intéressant. Et c'était l'espace. Voilà, c'est la fin de cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Merci à vous pour votre fidélité et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Biotine. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts, bien sûr, sur le site internet graphite.net et de nous suivre en continu sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve samedi prochain. À bientôt. Au revoir.